chers auditeurs, nous avons la joie de recevoir ce matin Maxence Caron, et uniquement Maxence Caron, pour ses chroniques, bien sûr, ses chroniques inactuelles, qui va s'appeler « Le christianisme du génie » et qui va évoquer Chateaubriand. Et nous le recevons aussi pour un livre magnifique et extraordinaire, un poème symphonique qui s'appelle « Le chant du veilleur », qui est un long poème de louange à Dieu. J'ai envie de dire un long psaume, comme un psaume. Vous verrez bien des phrases de ce texte résonnent comme les phrases des psaumes. Donc, bonjour, Maxence Caron.
Bonjour.
Préalablement, quelques petites invitations, chers auditeurs. Je vous invite bien vendredi, c'est-à-dire demain, 17 décembre, et dimanche et lundi. Alors, 17 décembre, en l'église Notre-Dame de la Croix. Trois places de Ménilmontant pour écouter l'oratorio de Noël de Bach. Avec les chœurs et l'orchestre Europa Voce, la direction Thiel Ali. Dimanche 19 à 14h30, dans l'église Saint-Honoré-des-Lô, avenue Raymond Poincaré. Et lundi 20, en l'église Saint-Roch, 20h30. Donc, cet oratorio de Noël. Prix des places, 22 euros. Tarif réduit, 18. Je vous invite aussi, ou plutôt je vous invite à aller voir au Lucernaire, La femme aux cinq éléphants. C'est un documentaire sur une vie, une femme assez étonnante, une Ukrainienne, qui a subi les deux occupations, soviétique et allemande, qui a préféré vivre en Allemagne, et qui, pour remercier le pays qui l'a accueillie après la guerre, lui a offert la traduction des cinq grands romans de Dostoïevski. C'est une femme assez étonnante qui explique ce qu'est la traduction et qui est pleine de philosophie et de sagesse spirituelle. Donc, La femme aux cinq éléphants au Lucernaire. Ce week-end aussi, il y a le bloc identitaire nous invite aux assises contre l'islamisme à l'espace Charenton. C'est 327 rue de Charenton, c'est au-delà de la gare d'Austerlitz, métro porte de Charenton. C'est toute la journée de 10h à 18h. Et vous pourrez entendre des gens extrêmement variés, dont Oscar Freisinger, dont vous le savez, qui à lui tout seul a pu inverser la vapeur, si je puis dire, et a remporté cette victoire en Suisse pour interdire les minarets aux mosquées. Non pas pour des raisons esthétiques, mais tout simplement pour des raisons pour des raisons sonores, c'est-à-dire que s'il y avait un minaret, eh bien, il y avait un muezzin dedans pour appeler à la prière. Et comme chacun sait, ces appels sont extrêmement sonores. Voilà. Je vous invite aussi à visiter un magasin ami, un artiste qui est un artiste qui a écouté beaucoup Radio Courtoisie quand il vivait à Paris, qu'il écoute toujours sur Internet, fabrique des bijoux absolument merveilleux. Il a travaillé pour les plus grands couturiers. Et vous trouverez ces bijoux à la galerie Sipango, 14 rue de l'Échaudée, dans le 6e. Si vous cherchez un bijou pour votre belle, eh bien, allez là, je peux vous dire que vous ferez le plus joli des cadeaux. Samedi 18 décembre aussi, c'est à la Cour des Mots au Théâtre de Nel à 17h. Avec notre ami Jean-Christaki Germain et Nicole Vassel, L'amour dans tous ses états, à 17h. Le dimanche, et puis prévoyons tout de suite l'après 2011, eh bien, le dimanche 9 janvier, c'est la 7e marche au flambeau en l'honneur de Sainte-Geneviève. Rendez-vous le dimanche 9 janvier à 17h sur le parvis de Notre-Dame et on se rend à Saint-Étienne-du-Mont. C'est l'association Paris Fierté. Procession au flambeau, donc qui j'ai encore jamais faite, mais j'aimerais bien la faire, qui manifeste une certaine fierté d'un certain type. Il y a des gens qui sont fiers d'être halal, ben nous, nous pourrions être fiers de rendre hommage à Sainte-Geneviève. Et puis, nouvelle extrêmement intéressante, le prix Renaissance des Arts a été remis hier à Jean-François Lagier, qui est le directeur du Centre international du vitrail. Et j'ai pu découvrir à l'occasion de cette fête qu'a organisée Renaissance, puisque c'est le cercle de Renaissance et notre ami Michel de Rostelan qui a remis ce prix par mes mains, que j'ai pu découvrir que ce Centre international du vitrail offrait des richesses absolument extraordinaires, ne serait-ce que la reproduction photographique de toutes les de tous les vitraux de la cathédrale de Chartres à notre hauteur et avec un guide de lecture, ce que nous ne pouvons jamais voir, parce que en fait ces vitraux nous les voyons de très très loin, ils sont déjà près du ciel si je puis dire, alors que là nous pouvons les approcher et on peut tous les comprendre. Donc si un jour des vacances de Noël vous ne savez quoi faire, eh bien je crois qu'il faut se rendre en ce musée absolument magnifique au pied de la cathédrale de Chartres. Et puis dernière nouvelle, et pas des moindres, le jeudi 6 janvier, comme les rois mages, chers auditeurs de Radio Courtoisie, venez fêter la nativité dans votre grande famille. Venez et offrez un livre aimé de votre bibliothèque. Il n'est pas question d'acheter. Venez et vous en recevrez un autre en amitié. Venez accompagné d'un ou d'une amie qui ne connaît pas la radio. De 18 à 21h, dans la crypte de l'église Saint-François-Xavier, c'est 7 places du président Mitoire dans le 7e, c'est au métro du Roc. Musique en fête et un buffet garni par vos soins, comme toutes les fêtes du Forum de la France chrétienne, ça marche très bien. Vous venez avec un gâteau, des fruits, une bouteille, ce que vous voulez. Et nous entendrons de la musique, nous entendrons des artistes et nous nous réjouirons ensemble de la fête des Rois Mages. Jeudi 6 janvier de 18 à 21h, dans la crypte de l'église Saint-François-Xavier. Voilà, chers auditeurs, ainsi, tous ceux qui sont plus seuls dans cette fête de Noël auront cette escale dans leur emploi du temps. Fin de cette partie d'information et nous écoutons l'étoile dite par l'étoile des Rois Mages, l'étoile mystérieuse dite par les enfants de Saint-Pédis, tirée du CD Mon cahier de poésie chez Rejoice.
Elisabeth Cathès. J'ai vu briller l'étoile lumineuse qui m'indiquait le berceau de mon roi. Et dans la nuit, calme et mystérieuse, elle semblait s'orienter vers moi. Puis j'entendis, pleine de charme, la voix de l'ange qui me dit « Recueille-toi, c'est dans ton âme que le mystère est accompli. »
Voilà, chers auditeurs, cette jolie voix des petites filles disant l'étoile mystérieuse. Alors, c'est un CD qu'on trouve chez Rejoice. Maxence Caron, à vous.
Tandis qu'au vide répond l'excavé, tandis qu'au creux répond l'ornière, tandis qu'à la vacuité littéraire succède la vacuité littéraire, tandis que la chienne indigence n'est prête à s'ébrouer que pour faire place à l'indigence, tandis que le même appelle le même, et l'autre l'autre pour autant que ce dernier n'est pas autre que le même, tandis qu'obligatoire il est de médiocrement écrire afin de s'initier à la communion démocratique et à l'incalculable bonheur de s'ouvrir au fantasme d'une majorité qui put ainsi se reconnaître dans un ramas de faiblesses étales, tandis que tous les membres de la gent gribouilleuse conjouissent, émulés par le poste de fantasmagorique pâture offerte aux visées onanistes des populaces policières, tandis que tous les membres de la gent piscopieuse s'agitent érectiles en se laissant devenir intentionnels corrélats et décérébrales d'une masse dictatoriale, tandis que la contente plénitude de l'absence de talent hébète les grettes du premier moderne et plumitif tireur de ligne, tandis que le son et le sens, l'intelligence et le poème, la musique et l'image, tandis que toute trame et tout personnage de toute épaisseur ont été dénudés, tandis que tout art a été dépeuplé et que s'entre-gratulent les paires sans gonades d'un nouveau désert sans silence, tandis, survient la consolation toutefois de découvrir l'oasis d'une nouveauté véritable et qui fut neuve toujours, d'une nouveauté vivante de cette vie qui point ne périt, cette vie qui se nourrit d'éclat, qui règne de gloire et qui se nomme l'éternité. Quoi de neuf au désert d'outre-modernité? Quoi de neuf, Chateaubriand? Dénué de toute référence à l'absolu, l'époque à laquelle nous assistons ne produit que des non-œuvres. À la source des doctrines où infuse et patouille ce monde immanentiste et toujours égaré, il y a cette espèce d'homme, écrit Chateaubriand, qu'il est impossible de convaincre parce qu'ils ont toujours tort. La parole de Chateaubriand ne saurait paraître au même rang qu'un quelconque discours qui se dit actuel. Cette parole est ailleurs, elle est essentielle, elle est partout. Elle est étrangère à l'instant et à toute fugacité, au point qu'aucun propos littéraire ou politique, aucun propos issu de nos ères échouantes, ne peut même s'y confronter. Et, hormis de quelques contresensés vagabonds que l'esthétisme égare, la parole de Chateaubriand ne sera jamais citée par quiconque. Elle ne sera pas non plus contredite par quiconque, et c'est là que réside la merveille. L'œuvre de Chateaubriand n'a pas à s'embarrasser de la moindre confrontation avec l'un des quelconques employés de cette administration de la défaillance mondiale que j'en nomme pensée contemporaine. Et la correspondance du grand homme continue ainsi de se voir intégralement publiée en une régulière parution qui occupe le terrain de nombreux volumes chez le plus prestigieux éditeur français. Les pages de Chateaubriand, que l'on croyait déjà toutes parues, poursuivent le jeu d'un permanent rappel à lui qui rappelait à l'essentiel. Le surpuissant vicomte lance depuis les cieux l'inédit que lui transmettait or celui qui fait toute chose nouvelle. Chateaubriand désigne à jamais sa borne au sombre rampement de crédule satisfaction propre à une ère antichrétienne qui, devant lui, n'arrive pas à se trouver la force d'avoir un ennemi. Car Chateaubriand a cette puissance littéraire et pensante de demeurer un grand incontredit. L'immensité de son génie effraie au point qu'il reste intouchable en dépit de son christianisme. De grands génies chrétiens, qui dussent réduire tout contradicteur à un bagne verbal éternel ou à une conversion de louange, ont été bassement mis en cause pour leur consubstantielle théologie. Et c'est en dépit d'un fondamental christianisme inhérent à ce qu'ils croient contempler que beaucoup d'imbéciles admirent tout de même Racine ou Corneille, Verlaine, Pascal, Baudelaire et Bossuet, et toute l'histoire de l'art. La tendance sera de passer sous silence ce qui tisse le génie, le christianisme bien évidemment. Mais Chateaubriand émane et rémane une mystérieuse aura qui lui confère l'immunité, malgré la radicalité de ses pages qui s'opposent continuellement au crétinisme pandémique et à la modernité modernante et modernatrice des moderneurs modernatisés. Dans l'admiration que l'on voue à Chateaubriand, l'on ne dit ceci presque jamais, et la chose relève du miracle, l'artiste et sa catholique pensée. Il y a chez lui un noyau que certains savourent et que les autres sont prêts à avaler. C'est parce qu'il est infusé du génie du christianisme, dont il a peint les traits en toute conscience, c'est parce qu'il est le génie du christianisme que Chateaubriand est aimé, malgré que quiconque en est. Tout repose d'abord sur ce chef-d'œuvre de jeunesse qui, en un livre, dit non seulement une définitive thèse, mais plus profondément énonce une preuve montrant la réalité d'un passé comme elle annonce un déploiement futur. Le génie du christianisme est le christianisme du génie. Chateaubriand établit et illustre par l'exemple, soit par la beauté elle-même de son art offensif et pacifié, inaltérable et si maîtrisé, l'écrivain montre que le Christ, qui est la vie et la vérité, est cette voie qui inclut aussi précisément l'art. La beauté est partie intégrante non seulement du royaume, mais elle jaillit aux côtés de la parole de Dieu. La beauté est donc le langage commun de tous les chrétiens sincères, et c'est un fait que l'histoire publie insolemment. La conjonction de toutes les mauvaises volontés qui, peuvent nier l'évidence dans l'intention de renverser les valeurs, n'aura jamais le pouvoir de dissocier le règne de la beauté et celui du christianisme. Et jamais personne ne pourra nier que beauté et conscience chrétienne sont intimement unies. Malraux même, en dépit de tous ses aveuglements, admettait l'équivalence de l'ère de beauté et de l'ère chrétienne. Plus on veut dépasser le couple du christianisme et de la beauté, plus on le renforce par la nostalgie que suscite l'art immanentiste contemporain, à qui tout manque, y compris lui-même. La beauté et le christianisme sont un. Le jour où le sens de la transcendance disparaît, la beauté disparaît également, et l'art devient pour lui-même l'obsessif miroir de ses interrogations. Il ne produit plus, mais se reproduit. Il n'est plus de l'ordre de la plante, mais du puceron. Coupé de ce qu'il appelle, l'œuvre d'art n'est plus qu'un résidu de questionnement, en ombilical écho, un interrogat. Toute œuvre porte en sa texture la trace de la transcendance ayant souffert la venue au monde. Le Verbe ayant par l'incarnation revêtu le corps de souffrance afin d'y faire rayonner la résurrection. L'œuvre d'art porte dans la finitude le scintillement de l'inaccessible transcendance. Mais pour cela, il faut qu'elle sache le regard par lequel le monde rayonne de ce scintillement dont la restitution, dans un donné, porte l'œuvre à la naissance. Une œuvre est la lumière menant la mort vers la résurrection. Elle est l'exigeante agir d'un chemin de croix. Elle est dans la chair de l'extériorité l'inscription de l'idée la plus chère qu'un homme artiste porte en soi. Et au plus haut de soi, l'œuvre incarne ainsi l'acte même par lequel l'homme est constitué créateur, produisant dans des souffrances de la finitude la marque de la liberté et donc de l'image de Dieu qui est en lui. L'œuvre d'art est hémophore, et ce sang qu'elle recueille est cet analogone de sang sacré qui jaillit du supplice de la croix et ensemence le monde pour y porter la résurrection. Et en ce sens où se mêlent l'infinité et la finitude, et qui fait d'elle une hémophore réalité, l'œuvre d'art montre que le rapport d'infinité et de finitude s'inverse au profit du motif de résurrection. Lorsque la différence fondamentale du divin est sue comme franchissant l'infinité, pour dire à l'âme humaine qu'elle a héritage de l'inaccessible pour image, cela suscite de l'âme une activité qui l'enjointe à reporter dans un contenu son mystère. L'œuvre d'art porte en soi l'élément surhumain que véhicule l'humain. L'œuvre d'art a pour essence ce que la pensée chrétienne a montré se tenant véritable. Plus l'artiste sera en intention avec ce qui est vérité, sans besoin d'intellectualisation mais avec un cœur ivre de l'absolu, plus l'œuvre portera le génie. Le christianisme du génie est le sens et la vérité du génie du christianisme. De toutes les religions qui ont jamais existé, écrit Chateaubriand, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres. Le monde lui doit tout, depuis l'agriculture jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices pour les malheureux jusqu'au temple bâti par Michel-Ange décoré par Raphaël. Il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte. Elle favorise le génie, épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la pensée, offre des formes nobles à l'écrivain et des moules parfaits à l'artiste. Il n'y a point de honte à croire avec Newton et Bossuet, Pascal et Racine. Et Chateaubriand continue aujourd'hui déployer son œuvre dans la présence d'éternité. Son œuvre parle puissamment depuis l'éternité. Elle s'adresse à la fin de ces temps trop anciens dans lesquels nous pataugeons. Cette œuvre grandiose ouvre un regard pour la renaissance. Elle fait signe vers la réalité de cette renaissance qui est en marche et que nous ne cessons de dire. Cette œuvre s'adresse tout autant à l'athée de masse qu'aux chrétiens sans esthétique. L'Église, la demeure du divin nom, est l'hospice où chacun ira, des plus endurcis, bientôt, à plat ventre, demander grâce, tandis que le ciel, empourpré d'un feu de baptême et portant le focal brasier de la résurrection, à chacun aura fait comprendre qu'on ne reçoit pas son Seigneur sans avoir revêtu un habit aussi beau que lui, sans l'avoir revêtu lui-même, transsubstancié en son Eucharistie. La beauté préfigure l'union de l'âme et du principe qui vers elle descend. Le génie du christianisme, c'est le Christ. Il est Dieu, la sagesse qui vient.
Merci Maxence Caron. C'est une très belle introduction à notre émission finalement, ce texte sur Chateaubriand, parce que se mettre en valeur ce rôle de Chateaubriand, cette dévotion de Chateaubriand, cette mission de Chateaubriand dans le génie du christianisme, c'est mettre en valeur un peu ce que vous voulez faire.
Je ne voudrais pas comparer l'incomparable.
Non, je ne veux pas comparer. Donc, mais vous, êtes, vous vous mettez dans les pas de Chateaubriand.
Disons que il vaut mieux se donner de bons exemples à suivre. À ce moment-là, le résultat sera peut-être plus probant si résultat il y a.
Alors, nous sommes ce matin ensemble pour évoquer ce très beau livre, Le Chant du Veilleur, poème symphonique, chez Via Romana, avec une très jolie couverture, puisqu'il y a votre portrait gravé par Aude de Kéros. Ce poème est en effet très musical. Les auditeurs qui sont nés récemment à la radio, dirais-je, en verrai, ne savent peut-être pas que vous êtes musicien, vous êtes pianiste, et vous avez écrit un très joli livre sur Bach et sur la messe en si, dans lequel vous montrez combien Bach, libéré de son travail et donc de sa soumission au prince protestant allemand, a pu donner libre cours dans cette messe en si à sa foi catholique. Et ça m'a été confirmé hier par un très intelligent personnage marié à une Allemande, disant qu'en effet Bach s'appropriait frénétiquement les protestants, Bach aussi, et qu'en fait, Bach appartient à la grande communauté chrétienne et catholique.
Oui, mais ça paraît assez évident de toute façon. Mais bon.
Alors, ça c'est déjà un très joli livre à offrir, chers auditeurs, à Noël. Mais alors, ce chant du veilleur, c'est un poème, et ça résonne absolument comme un... Je cite un vers que j'ai beaucoup aimé, « Que l'âme sonne et que l'essentiel résonne ». Ça résonne absolument comme un chant de Noël, comme le Gloria in Excelsis Deo, comme... C'est naturel chez vous.
Ce que j'ai tenté de faire, c'est de donner... parce que l'un de mes vices fondamentaux, c'est la philosophie. Et
j'ai oublié de dire que vous étiez agrégé de philosophie.
Oui, agrégé, c'est un terme assez... Enfin, qui veut dire ce qu'il veut dire.
Ça vous pose tout nom.
Ça veut dire, vous rendez compte, agrégé. Vous rendez compte la sonorité de ce mot. Bon, je ne commente pas, je suis sous le devoir de réserve. Donc, je dirais donc que la poésie, quand on la regarde telle qu'elle a existé, il y a deux formes de poésie. Il y a la poésie qui veut dire certaines réalités chatoyantes, gentillettes, etc. Du madrigal, vital âme, les glogues, etc. Et puis il y a cette poésie qui s'est beaucoup infléchie au XIXe siècle, mais bon, dont il existe énormément de témoignages, cette poésie métaphysique ou bien religieuse, cette poésie qui vise véritablement l'objet ultime. Et cette poésie doit se poser la question de savoir quel est le langage adéquat pour dire les objets invisibles. Il est évident que la poésie ne se définit pas uniquement par la rime, ou bien du moins par l'indépendance de la musicalité de la parole. La musicalité de la parole est un moyen mis au service d'une fin, et la question... de se demander, et vous parliez de Bach il y a quelques instants, Bach qui lui mettait en permanence la musique au service de Dieu, eh bien un verbe qui se met lui-même au service de Dieu, qui est lui-même verbe d'ailleurs, ce verbe-là, dans quelle mesure doit-il épouser la musique? Dans quelle mesure doit-il rentrer dans la musique? Et ce que j'ai voulu faire avec ce chant du veilleur, c'est déjà mélanger la puissance musicale telle qu'elle existe de toute éternité au fond de l'âme, avec les formes qui existent depuis toujours, je dirais, mais également des formes qui sont celles de l'alexandrin, par exemple, mais aussi briser ces formes afin de montrer que la musique précède ces formes. Donc on trouvera des alexandrins, par exemple, mais ils sont cachés. On trouvera parfois des verbes, on trouvera un vers de 24 pieds.
J'ai pas compté, j'ai jamais compté, mais la musique est là, c'est évident. Que l'âme... Je vais vous lire, Maxence Caron. Voici un beau poème de solitude, né au domaine où l'âme se reçoit. Voici la nappe de solitude devant moi, car Dieu met à part les forts à qui il convient de respirer un air solitaire, et puisqu'il m'a conduit, et ma liberté par la liberté, jusque à mon âme, je n'ai pas droit à croire de moi le contraire. Je n'ai aucun droit à douter de Dieu. D'un accroissement de lumière, il irradie le torse, et lorsque je doute de moi, qui suis faible, je connais combien l'absolu libère les forces. Les aulquins éructeront ce qu'ils voudront, les remontrances importent guère. Que l'âme sonne, que l'essentiel résonne. Et c'est un vers qui revient souvent. Vous avez beaucoup lu Peggy ou Claudel
J'ai évidemment. Alors, j'ai lu Peggy à une certaine époque. J'ai peu lu la prose de Peggy. Enfin, quand oui. J'ai peu lu, c'est-à-dire je ne l'ai lu qu'une fois.
c'est du peu.
Mais la poésie de Peggy, oui. Et la poésie, alors, disons que Claudel est pour moi le grand maître de la poésie en général, au sens où, d'une part, il a su opérer une synthèse extraordinaire entre la musicalité qu'il n'a pas réduite à l'alexandrin. Il a su trouver parfaitement la voie de la musique en dehors de formes trop strictes qui en elles-mêmes ne sont pas des absolus. Et d'autre part, il a également su retrouver l'incantation au sens biblique. Et enfin, il a su nous donner des voies d'épanouissement sur le plan politique, mais des voies que personne n'a suivies. Alors aujourd'hui, il me semble que nous sommes dans une époque où les choses sont suffisamment vides pour qu'on se permette de regarder ce que Claudel nous propose, non pas pour l'imiter, non pas pour faire la même chose que lui, ça n'a aucun sens et c'est impossible d'imiter Claudel. Simplement, les génies nous donnent leurs œuvres pour nous transmettre non pas une volonté de les imiter, mais pour nous transmettre leur flamme. Et le génie, c'est celui qui transmet son génie, et non pas qui transmet le contenu de son génie, donc non pas qui transmet ses propres lignes, mais qui transmet véritablement sa fougue à vouloir dire quelque chose de fondamental. Le but est vraiment de cerner ici même l'invisible, des mystères divins, grâce au langage dont nous connaissons la finitude. Comment le langage pourra devenir lui-même, dans la musique, l'évocation de choses qui sont, enfin de choses, d'éléments, de réalités qui sont inaccessibles, qui sont insaisissables. C'est une chose, c'est un pan de la réflexion poétique, et par ailleurs, qui n'a pas été résolu par certains poètes, mais il y a un poète qui, lui, a résolu cela, et ce poète, personne ne pense à lui. On joue ses pièces, pas toujours les mêmes, partage de midi, parce que ça parle de sexe, alors c'est sympa. Et puis, alors voilà. Mais, l'échange, évidemment, là aussi, ça parle un peu de sexe quand même, alors bon, on va quand même jouer, etc. Mais qui lit véritablement l'art poétique, par exemple, de Claudel, qui est un poème totalement hermétique, extraordinairement complexe, qui contient un traité de la connaissance de soi, etc. Qui lit les cinq grandes odes véritablement, avec profondeur, etc. Qui veut essayer de se constituer.
C'est dur à lire. Hein,
c'est fait exprès. Parce que le poète veut qu'on le lise. Enfin, c'est Valéry qui disait, je cite souvent cette phrase, mais Valéry disait qu'il vaut mieux, enfin, qu'un auteur normalement préfère, un vrai auteur préfère être lu 10 fois par une personne qu'une fois par 10 personnes. Bon, et Claudel, il n'a pas envie d'être lu à la légère. Donc, on protège sa phrase du profane, et ça, c'est Mallarmé qui protège évidemment son poème du profane. Plus vous êtes obscur, plus vous chassez l'imbécile. Et donc, les gens qui n'ont rien à faire chez vous, les gens qui n'ont
rien à faire. On va en parler parce que il n'est pas la fête, le pauvre imbécile, dans ce texte.
Ah, mais ça, il le sera encore moins le jour de la parousie.
C'est très, très amusant. Dernière image. Donc le chant, bien sûr, mais le psaume aussi. On entend les psaumes. L'une de vos phrases, le Seigneur est le défenseur de ma vie, qui pourra me faire trembler?
Ah, bien sûr, parce que les psaumes sont très présents.
On pense évidemment à le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Oui. C'est un long psaume.
C'est-à-dire que ma lecture des psaumes me nourrit. Et cette lecture de manière très volontaire et très consciente imprègne le poème, et au moment où vous écrivez, il est bon qu'un psaume surgisse parfois presque à l'identique, en plein milieu de phrases qui ne sont pas du tout des psaumes, mais qui sont vous-même. De même que dans un tableau célèbre de Dürer, Dürer se peint en Christ, et bien vous-même, votre verbe poétique peut se peindre tout à coup en Bible. Le verbe est fait pour tendre vers un état de perfection dans la réception du message divin, qui soit celui de l'état biblique, en quelque sorte. Donc, quant au milieu quand vous peignez vos propres états intérieurs, vos œuvres religieuses, etc., il est naturel, il est même souhaitable qu'à un moment donné, le rejoindre un psaume ne soit pas seulement une réalité asymptotique, que parfois ça colle. Tout à coup, vous rentriez pleinement dans le psaume et qu'il surgisse pleinement à l'identique, tel quel, parfois même sur plusieurs versets.
Vous écrivez, Maxence Caron, l'on écrit un livre à part la joie d'être en regard du quintessant, pour nulle autre récompense de n'éveiller qu'une autre âme à cette joie. La joie d'être en regard du quintessant. C'est une assez jolie définition. Donc votre œuvre est vraiment faite pour éveiller le lecteur qui voudra bien se donner la peine de vous lire, à cette joie qui vous inonde.
Oui, il aura énormément de peine, mon lecteur. Et mais si, c'est vrai, parce que sincèrement, c'est pas assez.
On ne rentre pas dans votre livre, dans le métro, je ne pense pas que ce soit possible.
Il faut qu'il ait de la peine.
Il faut le lire le matin.
La vérité, c'est difficile. Simplement, c'est difficile parce que pour la recevoir, il faut ne rien faire. Alors, les gens, ils ont toujours des choses à faire. Vous savez, il faut qu'ils aillent voir quelqu'un. Le samedi, il faut faire ça. Le dimanche, il faut faire ça. Qui n'est pas la messe. Et puis, etc. Puis le lundi, il y a ça, puis le mardi il y a le gros Lulu, puis le mercredi il y a les petites Lucettes, etc. Oui, donc il y a toujours quelque chose à faire. Alors ne rien faire, c'est tellement difficile. S'asseoir avec un livre.
Moi j'ai jamais considéré que lire c'était ne rien faire.
Mais pour la plupart des gens, lire c'est ne rien faire. Vous vous rendez compte, tous les gens vous disent mais je le lirai quand je serai en retraite, j'aurai plus rien à faire. Et puis justement, ils arrivent à la retraite et puis ils font une dépression nerveuse. Mais bon, moi j'attends.
Le problème c'est que leur vue a baissé et qu'ils
ne
peuvent plus lire.
C'est ça.
C'est un livre à lire le matin, chers auditeurs, et totalement reposé. Et je dois dire que passer les premières lignes qui sont plus difficiles, après on est pris par votre rythme, on est pris par votre phrase, et puis on est pris par cette joie de l'annonce, de la bonne nouvelle. Alors ça, c'est vraiment un livre qui doit bouleverser, parce que c'est vrai, c'est un livre qui vous prend et qui vous dit, mais on n'a aucune raison de ne pas être heureux. Christ est là, comme disent, Christ est ressuscité, comme disent.
Ah, il y en a qui aiment pas ça, il y en a beaucoup qui disent, alors Maxence Caron, il dit des choses intéressantes, alors en philosophie, voilà, il a dit ça c'est intéressant, etc. Mais alors, là où il commence vraiment à dérailler, c'est quand il parle de la parousie. Alors là, vraiment, ça c'est pas possible. Bah oui, mais vous voyez, les gens, quand c'est pas dans le télé 7 jours, ils ont du mal à suivre. La parousie n'est pas dans le télé 7 jours. Mais il faut quand même comprendre que pour nous autres chrétiens, la parousie, c'est dans 5 minutes, ça doit être dans une seconde, donc nous devons vivre dans ce que. Dans cette dimension que saint Paul a montré être le kairos suprême, c'est-à-dire le moment opportun suprême, le Christ est présent à tout moment, il revient à tout moment, et de toute façon, vu notre espérance de vie qui est quand même assez courte au regard de Dieu, nous pouvons mourir à chaque instant, nous pouvons nous retrouver dans les bras du Père qui est là à tout moment. Donc la parousie, que ce soit d'un point de vue apocalyptique, comme il est annoncé dans les Saintes Écritures, ou d'un point de vue strictement individuel, la parousie, c'est dans très peu de temps. Nous devons vivre dans cette exultation tremblante dont parle saint Augustin. Dieu arrive, et il arrive très vite. Et d'ailleurs, il est écrit dans Isaïe, si je ne m'abuse, cette phrase fondamentale, « Quand j'agirai, Je dirais vite. Eh bien, oui, c'est pour ça que... Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un sentiment d'urgence. Pourtant, on me dit que je suis jeune, mais moi, je me sens très vieux.
Vous n'avez pas d'âge,
Oui, Maxence ben, 40. C'est ça, comme un dinosaure.
Notre bouche doit constamment publier la gloire de Dieu et des insanes fricassures rire dans le grand éclat divin. Alors, vous chantez, tout poème est un chant à la gloire de Dieu. Et c'est aussi un éclat de rire aux insanes fricassures.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de quoi rire quand même.
Oui.
Parce que là, moi, je fais mes chroniques, vous savez, etc.
Alors, ils sont dit... très appréciés, je vous signale, Maxence Caron. Vos chroniques, dit une auditrice, sont un pur moment de bonheur et de jubilation intellectuelle. Quand vous en aurez suffisamment, éditez-les, s'il vous plaît.
Ah oui, mais sur madame, il va falloir en trouver un qui soit... qui trouve qu'il est... Enfin, voilà, il va falloir trouver quelqu'un qui veuille bien.
Mais votre éditeur, Via Romana, vous êtes tout...
Ah, mais Via Romana, mais oui, mais vous savez, je ne veux quand même pas lui prendre tout son argent, Via Romana, vous le laissez pour...
Si vous vous mettez à lui remplir ses caisses, il pourra rééditer, il pourra réinvestir.
Donc voilà, donc il faut acheter le poème pour que les chroniques paraissent.
Voilà, exactement.
Parlons commerce, voyons. Allons-y, alors.
Non, c'est pas du commerce,
c'est de la circulation de biens intellectuels.
C'est de la circulation de biens, exactement.
Pour faire fondre les douanes. Tout.
Ce qui est étonnant, c'est que oui, vous êtes très 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 ironique. Et j'ai envie de dire très très agressif à l'égard des esprits. Vous écrivez: qu'est devenu le pensant à l'heure où l'on prend son pot de chambre pour un océan? On éclate de rire et on peut plus voir donc un livre idiot sans penser au pot de chambre.
C'est-à-dire que oui, vous savez,
il y en a.
La lecture dans le marc de café, c'est vieux maintenant. C'est le pot de chambre. Mais vous savez, la dimension de ce poème, justement, c'est aussi de montrer, ce dont j'avais pu parler avec vous, d'ailleurs, cette interface d'admiration qui est à la fois le fait de se poser devant la quintessence de l'absolu et le fait de développer en même temps une ironie pour tout ce qui ne correspond pas à la beauté. Donc ça donne un poème à la fois qui peut... être très mystique et en même temps très parodique. Et un grand monsieur dont je ne dirai pas le nom car je ne veux pas le compromettre avec le mien, on ne sait jamais, vient de me téléphoner. C'est un monsieur qui est vraiment très connu, mais je ne dirai pas son nom. Il m'a dit, cher Maxence, ce qui est très bien dans votre poème, c'est qu'il est à la fois... il y a cette dimension satirique et cette dimension lyrique et mystique. Oui. Et oui, justement, et il a tout de suite vu, évidemment, enfin, principalement l'interface d'admiration se jouait dans cette alternative, dans cette alternance, je dirais plus précisément, entre le ton satirique, entre la poésie satirique telle qu'elle a toujours existé, car la poésie a toujours été satirique, elle a toujours été proche de la capacité de dire en précision le réel, et donc le côté mystique, par ailleurs, qui nous donne cette mesure, qui nous permet de voir ce qui n'est pas la vérité.
Les vagabondages des cerveaux dont l'intellectualose n'ouvre point à l'essentiel, et la substance n'est donc jamais regardée selon l'émerveillement que susciter doit son mystère. Si la pensée n'est pas pensée de l'impensée substance, elle n'est pas substantifique, elle n'est pas la conclusion et sans retenue nécessaire. Tricher, à quoi bon? Personne, ou presque, je dis presque, pour ceux qui instinctivement saisissent ce qu'autour de la différence transcendantale, il faudrait bâtir. Personne ne pense dans la profondeur à laquelle est appelée la pensée, et personne ne sait donc trouver l'art, car il n'y a pas d'art sans réceptivité, conscience, consciente ou non, de la communicabilité de l'essentiel. Si la pensée n'est pas pensée de la substance impensée et de sa différence, qui est à la fois fond, constitution, relation, la pensée n'est pas. Maxence est seul dans la douce brûlure de la pensée qui donne d'un même feu sauveur la dispensation d'art. Pourquoi dites-vous que Maxence est seul? Maxence n'est pas seul.
Ah non, il faut faire attention. Il y a l'isolement et il y a la solitude.
Oui, il y a l'isolement
et il y a la solitude.
Voilà.
La solitude est une chose qu'il faut rechercher parce que c'est le lieu où Dieu se donne dans la prière. N'oublie pas les phrases de l'Évangile. Pour prier, il faut fermer la porte de sa chambre. Et là. Puis également les phrases dans ce testament, c'est au désert que Dieu vient visiter le cœur d'Osée, etc. Donc c'est fondamental de bien comprendre
oui,
que la solitude, c'est aussi le lieu où l'on est un. Mmh. Un dans un face-à-face avec Dieu, un face-à-face avec ce que Dieu a à vous donner, et surtout un face-à-face avec... c'est une situation dans laquelle vous vous donnez cette chance de comprendre que Dieu n'est pas un concept, que Dieu n'est pas, je dirais, une notion vague ou bien quelque chose qu'on applique, un beau mouge. Non, Dieu est vraiment, véritablement, une expérience qui s'adresse à la totalité de vos facultés, y compris les facultés sensitives, que Dieu est tellement proche et présent que c'est précisément la raison pour laquelle on ne le voit pas. C'est son invisibilité, à la rigueur, qui prouve Dieu. C'est plus il est invisible, je dirais, et plus il atteste sa présence. Un peu comme la lumière. Si jamais la lumière éclaire tout, mais elle n'est pas elle-même visible. Mais de même pour ce qui est de Dieu. Et quand on voit, donc, dans le moment très théologique du poème que vous avez pu lire, où je fais mention j'utilise des termes de théologie trinitaire, en termes de relations, etc., dans ce moment précis, je montre que la Trinité, qui est en quelque sorte la consistance même du divin, cette Trinité, c'est dans la solitude que l'on va pouvoir la recevoir et donc ressentir très fortement la présence de Dieu, mais je dirais la présence, mais pas du tout la présence au sens abstrait, la présence, mais comme vous ressentez la présence de quelqu'un.
Ce qui met le poète est celui qui a ressuscité anciennement sa bien-aimée.
Oui.
Là, on est dans la Bible.
Mais c'est oui, tout à fait. C'est un. Il y a, si vous voulez, dans l'expérience mystique de Dieu, que tout chrétien est appelé à faire, mais dont tous les chrétiens désespèrent sans le savoir, pratiquement, parce qu'ils se disent oui, ça c'est bon pour les grands saints, c'est bon pour les docteurs de l'Église, c'est bon dans le passé quand Dieu faisait des miracles, aujourd'hui il n'en fait plus, etc. Mais c'est totalement faux. Dieu vient vous visiter, d'autant plus que vous avez besoin de lui. Plus vous êtes éloigné, peut-être, et plus vous êtes ce lieu dans lequel il vient vous donner les grâces dont vous avez besoin pour croire qu'il est précisément présent et au plus près de vous. Eh bien, il ne faut pas croire que l'expérience mystique, c'est pour les bons. Si vous voulez, on n'est pas dans une optique d'examen à la Sorbonne. Hein. Vous n'allez pas avoir votre bonne note parce que vous êtes un bon chrétien. Non, l'extase, c'est pas pour les... Non, l'extase, l'expérience mystique de la présence de Dieu, c'est tout simplement en s'abandonnant précisément à l'action divine qu'on va pouvoir recevoir ce rayon de la lumière divine qui va pénétrer tout au fond de votre cœur, et qui va vous montrer que Dieu est plus proche de vous que votre corps. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand bien même vous sentez votre corps au plus proche de vous, c'est la réalité que vous sentez au premier abord immédiatement, bien que l'âme soit encore évidemment plus proche. Quand Dieu se présente dans son invisibilité de présence, je dirais, eh bien, vous avez cette chose extraordinaire, c'est que Dieu, vous ressentez Dieu plus profondément encore et plus près encore que votre corps. Vous sentez que entre votre corps et vous, il y a précisément Dieu pour que vous puissiez sentir votre corps. Pour que vous puissiez sentir votre corps, il faut en passer d'abord par l'expérience même de la présence du divin. Ces dimensions traditions-là, qui sont celles du christianisme depuis toujours, nous avons tant oublié aujourd'hui que nous les imaginons comme des choses promises aux très très grands élus. Mm-hmm. Eh bien non, c'est fait pour les nuls, c'est fait pour les gens comme moi, qui sont là en train de peiner, bourrelés de migraines, avec du baume du tigre dans la poche pour avoir des belles rougeurs sur la tempe quand on a mal, etc. C'est fait pour les gens comme moi, vous voyez. Si c'est fait pour les gens comme moi, c'est fait pour vous, et certainement... Voilà. Vous imaginez à quelqu'un comme moi qui dit du mal de tout le monde, vous vous rendez compte, qui pourtant arrive parfois dans la prière à recueillir quelque chose de la grande bonté divine. Alors si j'étais quelqu'un d'encore mieux, peut-être que ça serait mieux. Et justement, je n'en sais rien, je ne le crois pas. Je pense que
ce qui est étonnant, c'est que vous réaffirmez que, bon, tout un chacun en effet, chacun d'entre nous, mais pour l'auteur, pour l'écrivain, le créateur, il faut le toucher de l'esprit absolu. Sinon, il n'y a pas création, il y a ratiocination, il y a...
C'est-à-dire que je ne connais aucun artiste, même parmi les surréalistes, etc. Regardez les surréalistes. Aucun artiste n'a écrit quelque chose de durable sans placer quelque chose d'ultime devant soi. Ouais. Nous sommes la première époque où il y a des artistes partout, c'est extraordinaire, il y a des artistes partout, et on ne retient rien de ce qu'ils font, et on ne retiendra rien de notre époque si ce n'est ridicule. Bon, donc, nous avons des artistes magnifiques partout, des Christine Angot, des Virginie Despentes, etc., des artistes tout nets, et pourtant, nos artistes ne mettent jamais rien devant eux que, justement, leur ombilique. Alors, cet ombilique, c'est magnifique. Dans l'histoire de l'art, les artistes ont toujours voulu dire quelque chose de la transcendance, ou dire quelque chose qui les transcendait. Oui. Et même les surréalistes, qui sont des révoltés, des communistes, etc., dont politiquement on peut dire tout ce qu'on voudra sur eux, etc., mais n'empêche qu'un surréaliste, il vous expliquera que la vraie vie est ailleurs, etc. Pour lui, il y a une surréalité, justement, c'est extraordinaire. Donc tout communiste qu'il soit, etc., le communiste, pour lui, n'est qu'une occasion de révolte contre un ordre immanent qui lui déplaît. Oui. Et j'aime énormément.
Il y a une instance supérieure.
Il y a une instance supérieure. Mm-hmm. Mais il y a toujours une instance supérieure pour l'artiste.
Non, pas toujours.
Pour l'artiste.
Et voilà cette définition d'une certaine population. Dans la chose auditeur, vous allez vraiment rire. Donc, le poète est celui qui a ressuscité anciennement sa bien-aimée. Elle lui, de toute sa précédence, la vérité. Et j'aime me voir ressusciter à ce qui est ma mémoire infracassable. Les gens de lettres, petits crottés à carrière, se crispent compétiteux devant l'évidence du génie qui, pour leur équilibre en égotisme, ne leur doit jamais être qu'une pituiteuse occasion d'éructer et parvulo postillonner contre la mystification qu'ils entendent hautement et clamoureusement hurler. Afin que leur maquillage ne sente jamais la salle de bain, ils ne louent que ceux qui leur sont inférieurs sur la globale échelle de médiocrité. Mais rien, la goujaterie surtout, n'enfreint ni ne touche à la somptueuse sérénité de l'œuvre. Face à la goujaterie primitive, l'artiste, dans la plus haute solitude, après le haussement d'épaules, s'éprouve en paix, ayant pour lui toute gloire qui consiste en la certitude de la constituante précédence de son irréfutable objet. Voilà cette description délicieuse des gens de lettres, petits crottés à carrière. J'avoue qu'on pense à beaucoup de gens. Et ça console de voir tant de fausses gloires célébrées et tant de temps perdu, les tants d'arbres abîmés pour imprimer.
Pensons aux arbres, soyons dendrophiles.
Pour imprimer. Alors, vous écrivez. Je suis un anarque de droit divin. Alors là, Maxence, j'aimerais que vous nous précisiez un peu ce mot anarque, parce que je suis allée jusque dans l'encyclopédie en 13 volumes Larousse.
Ah non, mais ça, c'est
très ancienne.
On peut dire anarchiste, effectivement. J'ai préféré anarque, j'ai trouvé ce terme plus joli. C'est le terme de Junger.
De Junger, c'est ça.
C'est le terme qu'on traduit quand on traduit Junger. Oui. J'ai voulu prendre ce terme également. Mais qui de toute façon est un est un équivalent, mais bon, pour éviter le isme ou le ist qui bon, peut être parfois connoté partisan, disons. Mais l'anarchisme de droit divin est ma posture politique fondamentale, c'est-à-dire le ne rien faire de manière politique, tout simplement.
Oui, vous êtes en dehors du temps. Le respect de la tradition extrême, comme la vénération du progrès, vous paraît également obsolète et inutile.
Oui, enfin, je suis pas du tout un penseur engagé politiquement. Je pense que la prière, c'est-à-dire Joseph de Maistre, qui est pour moi un grand modèle, Joseph de Maistre disait que la prière était, arrivé à une telle situation que la prière était devenue plus efficace que l'action.
Oui, et c'était Joseph de Maistre, que dirait-il à l'époque, que dirait-il aujourd'hui ?
Il y a des phrases prophétiques sur notre époque qui sont extraordinaires.
Je signale d'ailleurs, pour illustrer exactement votre propos, chers auditeurs qui avaient Internet, allez sur le Salon Belge, et il y a une prière qui a été rédigée par un martyr vietnamien que vous trouverez pour la France. Et je l'ai trouvée bien belle, je l'ai lue ce matin. Donc, je vous invite à la lire. Vous avez compris, chers auditeurs, que le chant du veilleur, le poème symphonique de Maxence Caron, publié chez Via Romana, est un livre précieux, un livre à vous offrir, à offrir. Merci, Maxence Caron. Vous retrouverez cette chronique, la chronique qu'il a faite sur mon blog, annebrassier.fr. Vous trouverez les références de ce livre. Il y a une très belle préface, nous n'en avons pas parlé, du père Renaud Escande, une préface magnifique. Merci encore Maxence Caron, et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous invite la semaine prochaine à écouter un conte de la Varande que je vais lire, un très joli conte de Noël avec Philippe Ariotti, nous l'enregistrons pour au milieu entre Noël et Jour de l'An. Je vous ai préparé une émission avec un livre très intéressant aussi, et nous nous retrouvons la première semaine de janvier. Et en attendant, vous pouvez aller consulter donc ce blog, mon magazine culturel chrétien sur annebrassier.fr. Chers auditeurs, à jeudi prochain. Maxence Caron, à l'année prochaine.
Au revoir.